Mes frères et sœurs, bonjour.
Bonjour, frère Moïse.
Pourquoi sommes-nous réunis? Pour le marathon ou pour l'adoration?
Pour l'adoration.
Alors on va chanter à nouveau réunis pour louer le
Seigneur.
À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis. Comment? À nos besoins, il répond, où est le Seigneur, Dieu est bon, à nouveau réuni. Pourquoi faire?
Pour louer le Seigneur.
Une dernière fois? À nouveau réuni, nouveau réuni.
Pour louer le Seigneur.
Pour louer le Seigneur. À nouveau réunis d'un même cœur. À nos besoins, il répond, oui, notre Dieu est bon. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. Pour louer le Seigneur. Le Seigneur, comment s'appelle-t-il? Et sur cette bonne parole, vous pouvez vous reposer, mes frères et sœurs. Il y a quelque temps, au culte, je me souviens qu'on méditait sur la personne de Jésus, et on voyait Jésus prier. On a aussi médité sur Jésus qui chante, à Gethsémané. Et là, j'aimerais regarder avec vous un message sur Jésus. Jésus souffrant. Nous allons prendre la Sainte Cène dans quelques instants et le Seigneur a bien dit, faites ceci en mémoire de moi. Car chaque fois que vous le faites, vous annoncez la mort du Seigneur. Donc pour pouvoir passer un moment de Sainte Cène, de victoire, moi je vous propose de regarder Jésus souffrant. Et vous allez être étonnés parce que la lecture est à l'opposé de ce que je viens de vous dire. Et je n'ai pas perdu la tête, je l'ai fait exprès. Alors, Luc chapitre 24, à la fin de l'évangile, c'est le dernier chapitre. Nous rejoignons les disciples réunis. Chapitre 24 de Luc, verset 36. Alors, soyez pas étonnés, on parle des souffrances du Christ, mais ça commence bien. Et ça finira bien. Tandis qu'ils parlaient, les apôtres, de la sorte, avec les femmes qui leur racontèrent la bonne nouvelle de Jésus ressuscité, je reprends. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi telle pensée s'élève-t-elle dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds, comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore. Ils étaient dans l'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Et si vous êtes d'accord avec ce que nous avons lu, vous pouvez dire...
Amen.
Mes frères et sœurs, il y a une question. Nous sommes ici après la résurrection de Jésus. Jésus donc est ressuscité des morts. Mais il y a quelque chose qui me gêne. Il montre ses plaies, de ses mains et de ses pieds. Pourquoi? Lui qui fait tant de miracles, n'aurait-il pas pu effacer les trous dans ses mains? Moi je crois. Il aurait pu effacer les traces sur ses pieds. Il aurait pu effacer toute trace de cette vie percée de son côté, non? Savez-vous pourquoi? Et quelles sont les quatre raisons pour lesquelles Jésus a gardé ses plaies? Et tout à l'heure, en prenant la Sainte Cène, souvenons-nous de cette grande et glorieuse vérité. Parce qu'il pouvait effacer les traces. Tenez, souvenez-vous de Daniel, dans le livre de Daniel, il y a trois jeunes Hébreux qui sont jetés dans la fournaise. Eh bien, quand ils sortent, il n'y a plus de traces. Donc Dieu pouvait effacer les traces des blessures de Jésus. Êtes-vous d'accord? Et pourquoi n'a-t-il pas fait cela, Jésus? Et pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas fait? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait ce miracle? Tout simplement, tout le monde a découvert comme une preuve que c'est lui. Voyez-vous, il dit au verset 39, mais touchez-moi. Vous voyez bien que c'est moi. C'est pas, c'est mortrissure, c'est blessure, c'est souffrance. C'est la preuve que lui-même qui a souffert est bien vivant. Et cette preuve-là, il l'a dans les marques de sa chair qu'il présente aux apôtres. C'est bien lui. Parce que dans le fond, il avait certainement d'autres blessures, vous ne trouvez pas? Essayez. Eh bien, je vais vous aider, vous avez déjà trouvé. Il a été arrêté. Bon. Mais il a été flagellé. Combien? 40 coups, moins un. Ça, ça doit laisser des traces. Eh bien, ces traces-là, on ne les a pas. Curieux, hein? En plus, avant des traces, dans le jardin de Gethsémané, quand il prie dans l'agonie de son âme, des gouttes, semblables à des gouttes de sang, tombent. Ça devait laisser des traces sur le visage. Il avait été arrêté, rejeté, on avait craché sur lui, on l'avait arrêté. Vous savez, quelqu'un qui passe par des moments d'angoisse, ça se voit, ça laisse des traces, ça laisse des rides. Pas de traces. Pourquoi? Pourquoi justement ces traces-là qu'il a gardées, mes frères et sœurs, alors qu'il avait tout le pouvoir? La preuve, c'est maintenant qu'il est ressuscité, il peut passer d'une pièce à l'autre sans passer par la porte. Un miracle, ça. Il dit à ses apôtres à Jérusalem, vous allez à Galilée, vous allez me retrouver. Hop, il a pris l'avion. C'est un miracle. Les apôtres sont sur le bord de la plage. Ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Jésus leur dit, jetez votre filet du côté droit. Et alors, il y a une pêche miraculeuse. C'est vrai, c'est pas vrai? Donc, il a fait ça quand il était ressuscité. Donc, une fois ressuscité, il avait tous les pouvoirs. Donc, il pouvait effacer ses plaies. Eh bien non, il ne l'a pas effacé à cause de vous et de moi. Pour que ce matin, nous puissions nous souvenir de Jésus-Christ. Faites ceci en mémoire de moi. Christ est mort. Et il veut nous rappeler, mes frères et sœurs, que c'est essentiel. Il est bien mort, mais il est bien ressuscité. Il revient bientôt. Amen. Si je lis attentivement ma Bible, j'entends les apôtres qui se réunissent parce qu'il y a les femmes qui leur disent « On l'a vu, c'est formidable, il est vivant. » Et vous savez, Marc le dit « On les a pris pour des rêveuses. » On a dit « Ces femmes-là, ils vous racontent n'importe quoi. Il est mort et bien mort, on l'a vu. » C'est ce qu'ils disent. Si vous ne croyez pas, vous le contrôlerez, c'est dans Marc 16, verset 11. Mais il y en a deux qui sont un petit peu touchés, c'est Pierre et Jean. Ils font un petit marathon. Il court vers le tombeau de Jésus. Jean court vite, il est jeune. Pierre attend, il arrive, Pierre entre dans le tombeau et il voit rien. Mais Jean lui rentre dans le tombeau, il voit et il croit. Donc vous voyez bien, frères et sœurs, qu'à cette époque-là, les gens étaient comme nous. Il y avait des gens qui doutaient, il y avait des douteurs, il y avait des adorateurs, etc. etc. Il y avait des explicateurs. Pas très français, ça. Et l'Écriture nous dit que ces blessures, car quand Thomas, le plus incrédule des tous, a vu, non pas a entendu, or on sait que la foi vient de ce qu'on entend, mais quand il a vu, quoi? Ses plaies. Là, il est tombé à genoux, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. La phrase unique de la Bible, il n'y a qu'une phrase comme ça dans toute la Bible, mon Seigneur et mon Dieu. Et ça a été dit par un homme qui a contemplé les blessures de Jésus. Alors, mes frères et sœurs, posons-nous la question à ce que je vous ai dit. Il y a quatre raisons pour lesquelles il n'a pas effacé ses blessures. Je crois que la première raison, allez, je vous emmène au ciel, c'est les anges. Oui, les anges, mais oui. Mes frères et sœurs, quand il est venu sur la terre, il était annoncé par qui? D'accord, continuons. Il a été annoncé par les anges. Et les anges ont dit, même le jour de Noël, il vous est né un sauveur qui est le Christ. Non seulement ils l'ont vu descendre, mais ils ont chanté le jour où il est descendu. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. C'est ça le chant des anges. Nous sommes d'accord? Ils ont vu, ils ont annoncé. Et troisièmement, et l'Écriture nous dit, ils ont chanté, et mieux encore, mes frères et sœurs, pendant tout son ministère, ils l'ont accompagné. Ils ont observé ses besoins. Et à un moment donné, dans la tentation avec Satan, ils voient que Jésus a faim. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent le nourrir. J'invente rien, c'est écrit comme ça. Hein, ils viennent le nourrir pour lui donner du courage et de la force. Quand il est en lutte à Gethsémané et qu'il prie plus instamment, « Mon Dieu, si tu voulais éloigner cette coupe !» Qui c'est qui est venu là? Un ange du Seigneur. Pourquoi faire? Pour le fortifier. Donc les anges, ils ont besoin aussi d'une leçon, puisqu'ils l'ont vu dans le ciel, puisqu'ils l'ont accompagné. Et mes frères et sœurs, j'oserais vous dire qu'ils seront avec nous parce que ceux-là, ceux qui sont au Seigneur, ils le reverront là-haut. Ils l'ont vu partir. Ils l'ont vu revenir. Et là, là, je ne vais pas vous étonner, mais il y a une prophétie de Zacharie qui vous laisse complètement à plat, dans le bon sens. Parce que les anges, quand ils voient Jésus revenir, ils lui posent une question. On t'a vu partir? On a chanté? On t'a accompagné? On a tout vu? Et je vais vous dire la question des anges. Vous voulez que je vous lise? D'où viennent ces blessures que tu as dans tes mains? Et il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est écrit dans Zacharie, vous pouvez contrôler, 13, verset 6. D'où vient? Alors, quand il est rentré dans le ciel, tous ceux qui le connaissaient ont dit, mais Seigneur, d'où vient que tu rentres là-haut avec des plaies? Qu'est-ce qui t'a fait ça? Et Jésus répond, ceux des nôtres, c'est eux qui m'ont percé. Voilà pourquoi, et je pense que c'est une des premières raisons pour laquelle Jésus a gardé ses plaies, pour enseigner les puissances célestes. Il est vraiment vivant. Il a triomphé de la mort. Mais plus. L'autre preuve pour laquelle il garde ses blessures, c'est pour lui-même. Regardez, pour lui-même. Quand il apparaît aux apôtres, il dit, c'est bien moi. Moi, ces blessures-là prouvent que c'est moi, c'est mon identité. Il ne va pas plus loin, il ne va pas discuter. Il dit, mais c'est moi qui est là. Mes blessures sont ma gloire. Et vous savez pourquoi il les a gardées, ces blessures? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, regardez vos mains, mesdames. Vos mains, peu importe. Est-ce qu'il y a des bagues? Oh, quelqu'un va dire, il va parcher sur la mondanité. Mais pas du tout. Il y a des bagues. Et les bagues, c'est fait pour quoi? C'est fait pour vous défigurer ou pour vous apporter un petit peu d'ornement? Ornement. Eh bien, les ornements de Jésus dans ses mains, c'est pas des bagues, c'est des trous. C'est la preuve de son amour pour nous. Et quand il regarde de ses mains, il voit, mes frères et sœurs, sa grâce infinie qui est venue jusqu'à nous. Et ce matin, au culte, nous pouvons dire, Seigneur, étends sur nous ta main meurtrie, s'il te plaît. Et rappelle-nous, Seigneur, que si elles sont meurtries, c'est à cause de nos péchés. Mais c'est plus que ça. Il les garde non pas parce que c'est un ornement de gloire, ce sont des coupes. Est-ce qu'il y a des sportifs parmi nous? Pas ceux qui font le marathon, bien sûr. Est-ce qu'il y a des sportifs parmi nous? Eh bien, quand vous allez dans la maison d'un sportif, souvent vous trouvez un endroit dans la chambre du sportif, n'est-ce pas, Claude? Oui. Et qu'est-ce qu'on y trouve?
Des trophées.
Des médailles. Des coupes. Et ils sont là pourquoi? Pour montrer que cette personne a bien gagné. Eh bien, mes frères et sœurs, Jésus est rentré dans le ciel avec des coupes. Avec nos noms dans le livre de vie. Amen. Par ces tromphées, mes frères et sœurs, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Nous sommes ces tromphées et ça ne va pas le lâcher. Il va nous garder jusqu'à la fin. Frères et sœurs, ils sont innombrables. Vous savez, ces blessures dans le ciel, un Jésus qui a souffert, ces blessures dans le ciel, me font penser à cette grande vérité que s'il regarde ces blessures, ça prouve qu'il a souffert, vous êtes d'accord? Je me souviens lorsque mon papa est rentré en 1945, la première fois que je le voyais, des camps de vacances d'Adolf Hitler. Ils étaient en camp. Moi je ne savais pas, c'est la première fois que je le voyais, il avait une grande blessure ici, à la main, et je me souviens tout gamin, il dit, mais c'est quoi ça? Il dit, ça c'est une blessure que j'ai eue sur le champ de bagarre. C'est la marque que j'ai combattue. Bon, alors j'ai vieilli. Et puis je lui dis, mais c'est pareil avec Jésus. ciel le sache, pour que toute la terre le sache, pour que tous les démons le sachent. Il est mort, mais Dieu l'a ressuscité. C'est vraiment lui. C'est pas un esprit, c'est un vrai homme. C'est pas un spectre, c'est un homme avec un estomac qui peut manger, des yeux qui peuvent voir. Et cet homme, Jésus, qui est le Fils de Dieu et qui est Dieu, est ici ce matin. Oh mes frères et sœurs, prenons la Sainte Seine en regardant cette blessure de Jésus. Ces cicatrices, mes frères et sœurs, ces cicatrices des mains et des pieds, c'est pour ça qu'il les a gardées, comme une coupe, comme disait le pasteur Monti, comme un tronfet. Le tronfet de Jésus, c'est chacun d'entre nous. Il nous a rachetés. Il nous a délivrés des griffes de Satan. Et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Voilà pourquoi on se sanctifie. Seigneur, je veux faire une chose, ta volonté. Et je veux être sanctifié. Sanctifie-moi par ta parole. Ta parole est la vérité. La troisième raison pour laquelle il a gardé ses plaies. Eh bien, mes frères et sœurs, je ne veux pas vous étonner. C'est pour nous. C'est pour nous. Parce que ces plaies, elles ont quelque chose à nous dire. Elles parlent aux anges. Elles parlent à Jésus lui-même. Mais elles nous parlent à nous. C'est vrai que quand on lit l'Apocalypse, je ne sais pas si vous le lisez de temps en temps, ou quand on lit des textes sur l'ascension de Jésus-Christ, on a cette vision d'un Christ rayonnant. Et c'est vrai, il est rayonnant de gloire. Seulement, il a quand même des trous dans ses mains. Il a des trous dans ses pieds. Il est rayonnant. Mais avez-vous remarqué, frères et sœurs, que si je ne me trompe pas, dans Apocalypse chapitre 5, verset 6, quand Jean regarde dans le ciel, il dit qu'il voit un agneau comme déguisé, comme immolé. Jésus dans le ciel est couvert de ses blessures. Oh mes frères et sœurs, et quand on pense que c'est par ses blessures que nous sommes guéris de toute maladie, il est là-haut dans le ciel. Et dans ce ciel de gloire, l'Écriture nous le présente comme un agneau immolé qui a été blessé, mais que Dieu dans sa grâce a ressuscité ainsi. Cela m'amène à découvrir que, merci Seigneur, pour tes mains que tu as gardées percées tes pieds. Parce que qu'est-ce qu'il fait le Jésus au ciel? Merci pasteur. Qu'est-ce qu'il a dit le pasteur? Il intercède comme un avocat. Pour qui? Pour nous tous. Et même ce matin, il intercède pour vous, pour moi, pour nous tous. Et alors, quels sont les arguments qu'il a? Quel est le dossier qu'il a pour intercéder? Et pour dire au Père, pardonne. Eh bien, je vais vous le dire, mes frères et sœurs. Ces preuves qu'il a, ces arguments qu'il a, c'est pas ce qui est écrit, c'est ce qu'il y a dans ses mains. C'est-à-dire qu'il n'a qu'à ouvrir ses mains devant le Père et dire, Père, oui, Satan les attaque, Satan les accuse, c'est écrit, l'accusateur, les frères. Mais regarde, mon Père, regarde mes mains. Et quand le Père voit les marques des clous, il se souvient qu'à la croix, Jésus a effacé tous nos péchés. Voilà pourquoi il faut l'adorer, mes frères et sœurs. Il est la seule et unique personne qui doit être toujours devant nos yeux. Et je bénis Dieu de ce qui est écrit, ce texte dans l'Ancien Testament. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Et moi, nous avons devant nous un Jésus priant, un Jésus pleurant, un Jésus chantant, mais un Jésus blessé, afin qu'il puisse intercéder pour nous. Seigneur, quand tu ouvres les mains vers ton Père voit les meurtrissures. Et ton Père l'entend, ta prière. Le sang me purifie de tout péché. Tu laves mes mains et mon cœur, et tu me fortifies dans ta grâce. Oui, frères et sœurs, on a des tribulations dans le monde. Qui ici peut se lever ce matin et dire, « Pasteur, je n'ai jamais eu de tribulations et de difficultés depuis que je suis au Seigneur. » Ah non, non, d'accord. C'est un frère qui prend l'air. Non, non, personne. Et Jésus d'ailleurs nous l'a dit, il a dit, vous savez, faut pas vous casser la tête, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Alors vous entendez des fois les gens qui disent, ah oui, mais c'est un chrétien, c'est une chrétienne, et il y a ça dans sa vie, il y a cette souffrance. Vous savez, il y a toujours des inspecteurs ecclésiastiques qui vous piquent à coups d'élastique. Clac, vous le savez pas. Eh bien, dites-moi, sur la croix du calvaire, il y a combien d'hommes? Trois. Il y en a un, c'est un brigand. Il y en a un autre, c'est un brigand pardonné. Et dans le milieu, il y a Jésus. Et vous remarquez, ils sont tous les trois sur la croix. Ils souffrent tous les trois. Le voleur, le pécheur pardonné et Jésus. La souffrance fait partie de la race humaine. Mais béni soit Dieu, Jésus fut l'homme de douleur, habitué à la souffrance, et nous dit, et nous instruit de ces mots, c'est par mes meurtrissures que les malades sont guéris. Est-ce qu'il y a déjà des malades qui ont été guéris par Jésus? Levez votre main, s'il vous plaît, et dites
Amen.
Amen. Et chaque fois que vous avez cette guérison, pensez à ses plaies. Il a payé cher. La troisième, voyez-vous, raison pour laquelle il garde ses plaies, c'est pour chacun d'entre nous, par la grâce de Dieu. Puis la dernière, je vais aller vite là. Il y en a quatre, hein, c'est ça lui. Il y a les anges, les autorités célestes, il y a lui-même, bien sûr. Il y a nous, et mes frères et sœurs, il y a le monde perdu. Car il est écrit qu'à la fin des temps, qu'est-ce que je lis à la fin des temps? Jésus reviendra pour juger. Il est venu une fois pour sauver. Il reviendra pour juger les hommes. Et pour juger les hommes, il faut les convaincre de pécher. Et vous savez ce qui est écrit dans la Bible? Je vais vous le lire. Jésus dit, ils verront celui qu'ils ont percé. Zacharie 12 dit, ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé et ils pleureront comme on pleure un enfant unique. Ils pleureront amèrement, constamment, toujours. Oui, le monde a besoin de voir les meurtrissures de Jésus. Mes frères et sœurs, ce qui me fait mal quand je regarde sur Internet certains services dits religieux, dits pentecôtistes, c'est qu'il y a des mots qui ont disparu de la bouche des prédicateurs. C'est le mot péché, on n'en parle plus. C'est le mot crucifié, on n'en parle plus. Or, la puissance de l'évangile, c'est Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Mes frères et sœurs, c'est pour ça qu'il les a gardés. Parce que rappelez-vous que le peuple qui était sur la terre, au moment de sa mort, ils ont dit « Que ce sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Et quand il reviendra, eh bien, ils le verront et diront « Oui, c'est vrai. » Et peut-être que certains se repentiront. Alors, un petit mot pour finir. Pas trop long. Pour finir, mes frères et sœurs, la conclusion que l'on pourrait tirer de cela. Il a gardé ses marques de souffrance pour dire aux autorités spirituelles qu'il était bien vivant et qu'il avait bien payé le prix. Il a gardé ses souffrances pour montrer à toutes les autorités, à son père et à lui-même, que c'est bien lui et lui seul. Troisièmement, pour son peuple qui sommes ici, pour nous rappeler qu'il intercède pour nous et qu'il prie pour nous et qu'il secourt tous ceux qui sont dans le besoin. Et quatrièmement, pour le monde, Seigneur, bientôt tu vas étendre tes mains. Et c'est ce que je vous disais en commençant. Au milieu de tout ça, il y a un apôtre qui s'appelle Monsieur Thomas, et il entend beaucoup de choses. Il entend les femmes, il entend les apôtres, et puis il voit que même il y a une dizaine d'apôtres qui marchent, et dit, écoutez-moi, si je ne mets pas mes doigts dans ses plaies, et oui, c'est bien son identité, dans ses pieds, je ne croirais pas. Et Jésus se présente et lui dit, Thomas, avance, ici ton doigt, vas-y. Avance, devant tout le monde, avance et touche mes pieds. Et là, Thomas n'a pas pu aller plus loin que de dire, mon Seigneur et mon Dieu. Ma sœur, mon frère, le Seigneur ne te demande pas une prière très longue. Et si tu pouvais dire à haute voix, pendant la Sainte Cène, Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Oh, que serait glorieux et puissant. Je voudrais vous proposer une strophe d'un beau chant qui dit, Agneau de Dieu, messager de la grâce, je veux entendre ta voix, le langage de la richesse, le langage de la croix. Il nous dit, pour toi je fus livré, méprisé, maltraité, battu, meurtri, blessé, pour ton iniquité. Voulez-vous, mes frères et sœurs, qu'on chante deux fois, une fois tous ensemble. Agneau de Dieu, oui, c'est mieux debout, hein. Agneau de Dieu, messager de la grâce, gardez devant vos yeux, frères et sœurs, les quatre plaies de Jésus. Il n'a jamais voulu qu'elles soient effacées. Il a dit que tout à l'heure, nous allons communier à son corps et à son sang. Oh, de Dieu, messager. Mais battu mort pour mon iniquité. Est-ce que je peux prendre encore 2 minutes? Excusez-moi. On va couper l'église en deux. On va diviser. C'est la provocation. Mes sœurs, vous allez chanter les premières lignes, toutes seules. Agneau de Dieu, messager de la grâce, je veux entendre ta voix, le langage de la croix. Vous comprenez? Et après, vous écoutez, et c'est les frères qui vont chanter. Pour toi, je fus livré. Voulez-vous qu'on essaye? C'est une répétition avant d'être à la chorale avec Rosette, d'accord? Allez-y, mes sœurs, mesdames.
Agneau, messager.